Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Nous retrouvons pour cette nouvelle émission Bernard Michon, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Et nous accueillons aujourd'hui un historien que nos auditeurs ont déjà entendu lors de la deuxième saison de notre émission, Bruno Maillard.
Bonjour.
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 Bernard, je vous laisse présenter notre invité.
Bruno Maillard est docteur en histoire de l'université Paris 7 Diderot. Sa thèse, soutenue en 2010 sous la direction de Florence Gauthier, s'intitule « Les Noirs des Geôles, la répression pénale des esclaves à l'île Bourbon, 1815-1848 ». Il est chercheur associé au Centre de recherche sur les sociétés de l'océan Indien, le CRESOIS, de l'Université de La Réunion, et conseiller scientifique au sein de l'association Protea. Depuis août 2016, Bruno Maillard est également membre du Comité national pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage. Parmi ses publications, je signale à nos auditeurs l'ouvrage qui sera l'objet de notre émission d'aujourd'hui, « Libre et sans fer, paroles d'esclaves français, Guadeloupe, Île Bourbon, Réunion, Martinique », publié en 2015 aux éditions Fayard. Bruno Maillard est l'un des auteurs de ce livre en compagnie de Frédéric Régent, maître de conférence HDR à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président du CNMHE, et Gilles Dagonfier, directrice de la médiathèque de la ville du Gosier à la Guadeloupe.
Merci Bernard pour ces précisions. Alors avec vous Bruno Maillard, nous allons nous intéresser donc à votre livre et à la parole des esclaves des colonies françaises. Ma première question tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de cet ouvrage? Comment est né cet intérêt pour la parole des esclaves?
Alors, à l'origine, c'est cette réflexion qu'on avait eue, entre autres avec Frédéric, autour des slave narratives qui sont très présents dans les colonies anglo-saxonnes. Donc, ces récits d'esclaves affranchis, surtout au XIXe siècle, et qui permettaient aux historiens anglo-saxons d'écrire une histoire de l'esclavage avec les sources classiques que l'on retrouve, nous aussi, dans les anciennes colonies françaises. Mais conjugué justement à ces récits qui consacrent de longs moments à la vie quotidienne des esclaves. Hein, on pourrait faire référence par exemple à l'autobiographie de Mary Prince. Donc elle, c'est une esclave anglaise puisqu'elle est née sur l'île des Bermudes, puis elle a beaucoup voyagé jusqu'à la Barbade, elle a été revendue à différents vêtements et elle parle beaucoup de sa vie au quotidien. Pour l'instant, dans les archives françaises ou étrangères, on n'a pas retrouvé encore de récits autobiographiques d'un esclave d'une colonie française qui a été affranchi. Bon, on n'en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Les recherches vont faire peut-être qu'on va trouver un jour un essai, un brouillon, quelque chose dans les archives. En revanche, la parole des esclaves, on peut la saisir. Et on peut la saisir comment? On la saisit dans les archives moins judiciaires. Car si l'esclave est considéré d'abord comme un objet de propriété, il est partiellement reconnu aussi comme un sujet de droit. Il peut se marier, il peut même être affranchi, et surtout quand il est soupçonné de la commission d'une infraction. Et à ce titre, il relève de la même procédure qu'une personne de condition libre. Voilà, il passe devant ce qu'on appelait à l'époque un lieutenant main du juge, qui viendra le juge main d'instruction après. Et dans ses interrogatoires, eh bien, l'esclave est amené à parler certes de l'affaire pour laquelle il est renvoyé devant l'autorité judiciaire, mais aussi de sa vie au quotidien. Et ce sont ces paroles que l'on a utilisé pour reconstruire ce que nous on appelle le monde parallèle des esclaves.
Alors précisément sur les sources mobilisées pour le livre, comment vous êtes-vous partagé la tâche entre les trois auteurs?
En fait, dans les archives françaises, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les territoires d'outre-mer, les archives judiciaires sont généralement consignées dans ce qu'on appelle la série U. Hein, avec plusieurs sous-classements, donc la série 1U étant plutôt les affaires correctionnelles, les petites affaires, et la série 2U, les affaires, les assises. Il peut y avoir 3U avec les rapports du procureur. Bon. Donc on a plutôt été, selon nos territoires, Gilda étant plutôt sur les archives départementales de la Guadeloupe, moi sur la Réunion, et Frédéric a plutôt été, lui, alors aux archives nationales d'Outre-mer d'Aix, où il y a un petit peu le reste, ou le surplus, puisque toutes ces affaires étaient consignées en double. Ça, c'était lié une ordonnance royale qui datait de 1776, qui obligeait les greffiers, les notaires, etc. à faire les documents en double. Donc une partie était renvoyée à Paris, désormais aux archives nationales d'Aix-en-Provence. Donc on a en fait traité beaucoup d'archives, et puis comme tout livre, à un moment, on a dû faire une sélection de celles qui nous semblaient les plus moins pertinentes pour reconstruire, on va dire, cette histoire sociale des esclaves dans les colonies.
Alors, le titre de l'ouvrage, « Libre et sans faire », fait référence à quelque chose de bien précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Tout simplement parce que dans la procédure criminelle de l'ordonnance de 1670, il était précisé que toute personne qui était interrogée par un magistrat dans le cadre d'une affaire criminelle, que ce soit un substitut du procureur ou ce qu'on appelle encore une fois le lieutenant du juge qui est l'ancêtre du jugement d'instruction, la personne devait être auditionnée libre, en tout cas sans faire. C'est-à-dire que généralement ces personnes étaient écrouées, en ce qu'on appelle en détention préventive, et lorsqu'ils sont amenés devant le juge, la loi obligeait à ce qu'on les défère pour qu'ils puissent s'exprimer librement. Alors, c'est d'autant plus intéressant que être esclave par excellence, c'est être privé de liberté. Bon, certes, les esclaves de ces colonies au XVIIIe, XIXe siècle, sauf s'ils commettaient des fautes, pouvaient être enchaînés. Ceux qu'on a étudiés dans les archives, c'était des nègres de houx, des noirs talents, donc des esclaves qui travaillaient au quotidien chez leur maître, que ce soit en ville ou en campagne, qui n'étaient pas enchaînés. Mais dès qu'ils étaient incarcérés, en revanche, généralement, en plus de la prison, on les enchaînait. C'était une mesure de sécurité. Et tous ces esclaves qui ont été auditionnés par les juges, systématiquement au début du procès verbal était bien spécifié, a comparu devant le juge libre et sans faire. C'est-à-dire que l'officier de police moins judiciaire devait déférer de l'esclave pour qu'il puisse s'exprimer, je mets des guillemets bien évidemment, librement devant le juge.
Et nous allons entendre un extrait de Maloya du groupe L'Indigo. Alors le Maloya est à la fois une forme de musique, un chant et une danse de La Réunion, créée à l'origine par les esclaves malgaches et africains dans les plantations sucrières. Je signale que le Maloya a été classé patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2009. Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Bruno Maillard. Et aujourd'hui, nous abordons la parole des esclaves des colonies françaises. Je rappelle le titre de l'ouvrage que Bruno Maillard, Frédéric Régent et Gilles Dagonfier ont publié aux éditions Fayard, « Libre et sans faire, paroles d'esclaves français, Guadeloupe, Île Bourbon, Réunion, Martinique ».
Bruno Maillard, à quelle loi les esclaves sont-ils assujettis ? Le code noir s'applique-t-il dans l'ensemble des colonies françaises esclavagistes ?
Oui, en sachant qu'il y en a deux pour les Antilles qui ont été colonisées les premières. C'est ce qu'on appelle l'édit de mars 1685 qui prendra plus tard le nom de code noir. En fait, le nom de l'édit, c'est l'édit concernant la discipline des esclaves nègres. Alors, des îles sous le vent et du vent, je ne sais plus exactement le titre. Et c'est plusieurs années après, lorsqu'il va être interprété par des jurisconsuls ou des journalistes de main de l'époque, dans l'encyclopédie, moi par exemple, on fera ma référence au code noir. Bon. Pour les Mascarennes, puisqu'à l'époque, la France a autorité sur la Réunion d'aujourd'hui qu'on appelait l'île Bourbon, mais aussi sur l'île de France, qui est l'île Maurice. Un autre édit va être adopté en décembre 1723, et cet édit sera quasiment la compie conforme de celui de mars 1685, avec quand même un certain nombre de petites révisions, liées d'ailleurs sans doute à l'expérience coloniale et esclavagiste qui a été réinterprété par les jurisconsultes de Louis XV, je veux dire, par rapport à ceux de Louis XIV. Dans l'ensemble, ces deux textes visent à quoi? Bon, ben, ils visent d'abord, même s'ils légalisent moins l'esclavage, hein, ça c'est quelque chose d'important, ils légalisent moins l'esclavage, un esclavage qui existait avant, depuis longtemps dans certaines îles. À Bourbon, il arrive donc 50 ans après l'arrivée des premiers esclaves. Hein, c'est en 1672 qu'il y a la première vente d'esclaves, donc le fait esclavagiste est déjà largement imposé sur deux générations. Le texte vise certes à légaliser moins l'esclavage, mais il vise aussi, et c'est très important, à permettre à la puissance publique de se réapproprier un certain nombre, ou plutôt une certaine autorité sur les maîtres et les esclaves. Le cas de la justice étant très très intéressant, puisque les codes noirs divisent rigoureusement ce qu'on appelle la justice droit commun de la justice main domestique. Grosso modo, tout ce qui concerne les homicides, les vols qualifiés, le grand marronnage, ça n'est plus du domaine judiciaire du maître. Le maître n'a pas à juger même ses esclaves pour ces faits-là. C'est aux tribunaux de droit commun de le faire, et ça va d'ailleurs entraîner de nombreux conflits entre la puissance publique et l'autorité domestique.
Alors nous allons lire un extrait de votre ouvrage, un extrait de la déposition de Delphine, domestique Caffrine, du 4 octobre 1847.
Quels sont vos noms, caste, âge, domicile, profession et nom de votre maître ?
Je me nomme Delphine, je suis âgée de 22 ans, domestique appartenant au sieur de Guigné et je demeure chez lui à Saint-Benoît.
De quelle manière s'est passée la scène qui a eu lieu avec Coco Boyer et Fortin ?
Au moment où je rentrais à ma case, vers 6 heures du soir, je me trouvais suivie par le nommé Coco Boyer. Arrivé à ma case et voyant qu'il voulait rentrer, je le repoussais en lui priant de me laisser seule. Il ne fit aucun cas de mes prières et entra malgré moi dans ma case. Il redoubla de cajolerie et chercha même à me prendre de force. Je le repoussai pendant une demi-heure, au moment où Fortin frappa à la porte. Coco Boyer desserra son étreinte et je pus aussitôt ouvrir la porte. Coco Boyer, apercevant mon mari, lui asséna un coup de pied dans le ventre. Fortin, armé d'un bâton, lui saisit le pied et lui porta un coup à la figure.
Coco Boyer dit avoir déjà eu une relation avec vous.
Il ment, j'ai toujours refusé ses propositions.
Êtes-vous en ménage avec Fortin ?
Fortin est mon compagnon depuis longtemps, il dort et mange dans ma case tous les soirs.
Coco Boyer n'avait-il pas au moins déjà essayé de vous aborder afin d'établir une relation ?
Il m'a exprimé plusieurs fois ses désirs, mais j'ai toujours refusé, en lui disant de me laisser tranquille, en lui disant que Fortin était jaloux et d'un caractère méchant.
Coco Boyer prétend avoir reçu le coup dont il se plaint sous un manguier et dit aussi qu'il vous a vu venir à lui alors qu'il sortait de son évanouissement.
C'est sur le seuil de notre porte que Coco Boyer a été frappé. Je l'ai suivi jusqu'au manguier pour l'aider, et alors là, son frère est arrivé et l'a porté par le bras jusqu'à la remise.
Alors Bruno Maillard, que nous apprend cette déposition ?
De nombreuses choses. En fait, cette déposition qui relate une tentative de viol, hein, on peut le dire comme cela, met d'abord en évidence ces territoires que l'on a découverts à travers ces archives, et en particulier ici ce qu'on appelle le camp des Noirs, sur une habitation, un espace a toujours été moins réservé aux esclaves, hein, une habitation type par exemple sucrière, vous avez la maison du maître, vous avez le hangar, vous avez le moulin à sucre, et puis vous avez le camp des Noirs. Le camp des Noirs, c'est l'espace qui est réservé aux esclaves. Alors ils ont généralement une case, hein, une petite maison de 10 mètres carrés, et un jardin qui est attenant. Et sur certaines grandes habitations, c'est un véritable petit village que vous avez. Faut pas oublier qu'à La Réunion, le développement du sucre a permis à des habitants de posséder 500, 600, voire 1000 hectares, et de posséder 400, 500, voire parfois 700 à 800 esclaves. Donc vous avez de vrais petits villages, et dans ces petits villages, eh bien, les esclaves ont reconstitué des sortes de communautés, en tout cas des espaces moins de vie. Et ici, on voit bien cette jeune femme, hein, Delphine, qui rentrant de sa journée de travail, est agressée par ce Coco Boyer, qui lui est un libre de couleur, donc qui est affranchi, mais qui manifestement a gardé des liens, on va dire, amicaux, j'y mets des guillemets, hein, compte tenu de la situation, et familiaux. En tout cas, il a l'air de se rendre régulièrement sur cette habitation. Donc déjà, un territoire qui un vrai lieu de vie. On a longtemps cru que ce camp des Noirs, ou ce qu'on appelle les rues Cazenègre, dans les colonies antillaises, étaient juste des espaces, vous voyez, un peu de banlieue moins dortoir où on ne faisait que se reposer. Non, ce sont des vrais espaces de vie, d'ailleurs très animés le soir, par exemple, le dimanche ou les jours chômés. Deuxième élément, c'est ces solidarités extrêmement fortes qui se nouent entre les hommes et ces familles qui se constituent, ce qu'on appelle, nous, les familles moins marronnes à l'île de la Réunion, car son fiancé, moins Fortin, n'est pas de son habitation. Ça, c'est intéressant. Fortin est un esclave d'une autre habitation, mais comme elle le dit dans son audition, eh bien, il la rejoint tous les soirs. Là aussi, c'est quelque chose qui est coutumier. Grosso modo, les maîtres sur les habitations attendent d'abord des esclaves qu'ils exercent leur activité dans la journée, hein, pour laquelle ils sont esclaves moins d'ailleurs. Et effectivement, la discipline domestique a tendance à se relâcher un petit peu le soir et les jours chômés ou les dimanches. Et effectivement, il y a des circulations d'esclaves qui vont d'une habitation à une autre et qui sont archi connues. Il est quasiment sûr que le maître de Delphine et le maître de Fortin savent sans doute qu'il y a une relation amoureuse entre eux, mais pour eux, voilà, ça n'est pas important. L'important, c'est que Fortin, le matin, retourne sur son habitation pour travailler. Ce que cette archive nous montre aussi sont les solidarités qui existent entre eux et les esclaves. Par-delà la relation très forte qui noue Fortin et Delphine, eh bien, cette affaire que j'ai étudiée hein, de long en large va amener à d'autres auditions, d'autres dépositions d'esclaves de cette habitation, et ils vont tous témoigner en faveur de Delphine et Fortin contre ce coco boyer. Vous comprenez, nous, en tant qu'historiens, on n'a pas essayé à refaire une enquête moins judiciaire. Est-ce que c'est Coco Boyer qui a raison? Peut-être que Fortin l'a agressé comme cela. Est-ce qu'il ment? Nous, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une solidarité extrêmement forte des esclaves. C'est-à-dire qu'ils vont tous quasiment donner la même version des faits. Et cette affaire va aboutir à un non-lieu. C'est important de souligner, car même si Coco Boyer est un libre de couleur, il reste un libre. Et vous savez que lorsqu'un esclave porte des coups et blessures avec effusion de sang contre une personne de condition libre, en principe, c'est rigoureusement sanctionné. Et Fortin risquait une peine extrêmement lourde. Hein. Ce qui prouve que là, on est effectivement en 1847, on est sur la fin moins, du régime esclavagiste. Mais ce qui prouve que ces solidarités moins d'esclaves conjuguées dans le cadre d'un procès, eh bien, peuvent aboutir à la préservation des libertés.
Ce sont des témoignages réellement passionnants sur la vie des esclaves. Quels sont les principaux enseignements, et je terminerai là-dessus, de votre ouvrage s'agissant de la vie des esclaves, justement, plus largement?
Ce que l'on a démontré, c'est ce que d'autres historiens anglo-saxons avaient démontré déjà, hein, dans un certain nombre d'ouvrages, c'est que les esclaves exercent des activités économiques parallèles, des pratiques sociales diverses et variées, sur ces camps des Noirs par exemple, et puis font émerger des expressions culturelles extrêmement fortes. À l'origine, à cette période, commence à émerger à la Réunion par exemple ce qu'on appelle le Tchéga, qui deviendra ensuite le Maloya. Donc les esclaves sont des acteurs moins sociaux sur ces territoires, territoires fondés bien évidemment sur la violence. J'insiste bien, hein. La société coloniale esclavagiste, c'est une société de violence de toutes sortes, surtout des violences physiques, mais psychologiques et morales. Le fouet, les chaînes sont très présents encore sur les habitations. Mais malgré cette coercition extrêmement forte, eh bien, ces esclaves ont réussi à s'approprier des territoires, ont réussi à s'approprier moins des objets divers et variés et à tisser des relations extrêmement fortes avec des esclaves, mais aussi avec des personnes de condition libre qui leur ont permis de préserver quoi ? Leurs droits fondamentaux, hein ? Ce qu'il leur reste de liberté d'aller et venir, ce qu'il leur reste de dignité, on va dire, et préservation de leur humanité au bout du compte. Donc c'est un monde parallèle, c'est vrai. C'est un monde parallèle au monde officiel de l'habitation. Ce monde, il est très actif la nuit, par exemple. Il est très actif le dimanche ou les jours chômés. Il est très, très actif dans des espaces qu'on ne connaissait pas. Mais l'humanité moins des esclaves, elle a été préservée lors de ces temps.
Et j'invite nos auditeurs à lire cet ouvrage dont je rappelle le titre « Libre et sans faire, paroles d'esclaves français » aux éditions Fayard. Bernard, pour terminer, pouvez-vous nous donner quelques références bibliographiques sur le sujet abordé aujourd'hui ?
En dehors de l'ouvrage que vous venez de citer, je signale deux autres références bibliographiques. La première, sous la direction de Dominique Rogers, « Voix d'esclaves ». Antilles, Guyane et Louisiane française, 18e-19e siècle, publié dans la collection Esclavage des éditions Cartala, et un autre ouvrage de Caroline Houdin-Bastide, Maître accusé, esclave accusateur, les procès Gosset et Vivier, Martinique 1848, publié aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Caroline Houdin-Bastide est docteur en histoire et civilisation de l'École des hautes études en sciences sociales. Elle a déjà rédigé plusieurs ouvrages sur l'esclavage et elle nous présente une édition critique de ces deux procès de maîtres qui se tiennent au début de l'année 1848 et qui ont eu un grand retentissement. Ces deux maîtres sont poursuivis devant la chambre de police correctionnelle et Caroline Houdin-Bastide s'appuie sur donc les publications qui sont faites des minutes du procès dans un journal colonial conservateur créé en 1832, le Courrier de la Martinique.
Merci Bernard, merci Bruno Maillard d'être venu. Merci aux auditeurs qui nous suivent. Le mois prochain, nous accueillerons Yann Lignereux et nous parlerons de l'esclavage dans les colonies françaises en Amérique du Nord. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la mémoire, avec à la technique José Pasquale.